Vous écoutez France Culture.
Et bonsoir Jean Lebrun et bonsoir à tous.
Hey, you know what?
C'est le début ce lundi d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance, comme l'an dernier, consacrent au bac philo. Une semaine au service des lycéens et à la gloire de leurs enseignants et héros qui disposent d'une seule année pour leur donner le goût de penser par eux-mêmes, contre eux-mêmes et le goût de s'étonner de ce dont ils ont l'habitude. Un an, ça n'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça de donner. Vive les profs de philo donc, et vive la terminale. Bonjour François Pépin.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance et bienvenue à tous vos élèves, enfin une partie d'entre eux, vos élèves de terminale qui sont au lycée Jean-Baptiste C. Une vingtaine d'entre eux vous accompagnent aujourd'hui dans le studio 119 de la maison de Radio France pour vous entendre plancher à leur place. Nous sommes ensemble pour 50 minutes et on va se poser ensemble la question de savoir si l'on doit toujours raison garder. Alors François Pépin, si j'étais en terminale, encore, et si j'avais un tel sujet le jour du bac, j'aurais tendance, en ce qui me concerne, pour fabriquer une problématique, qui est quand même l'essentiel de l'introduction, à comprendre cette expression de raison garder de deux façons. Dites-moi ce que vous en pensez. La première, c'est être rationnel, garder la raison, mettre la raison de son côté, faire usage de la raison quand d'autres se laissent agir par leur passion. Et la deuxième, c'est, bizarrement, le sens est voisin mais pas tout à fait le même, être raisonnable, ça n'est pas tout à fait la même chose, on a rarement tort d'être rationnel, on n'a pas toujours raison d'être raisonnable. Est-ce que j'aurais raison de procéder comme ça?
Je pense que vous auriez raison et que ça serait un bon point de départ, et que dans ce genre de sujet, on a toujours raison, si l'on veut, de distinguer, éventuellement ensuite pour associer ces deux dimensions.
C'est-à-dire
qu'on peut effectivement réfléchir à la question de l'usage d'une faculté rationnelle, la mise en œuvre de quelque chose qu'on aurait déjà, éventuellement une faculté innée, qu'on nomme raison, du point de vue finalement assez général de tout ce que la vie peut présenter. Et puis, il y aurait aussi un problème plus pratique face à une situation d'urgence. Je pense que cette expression renvoie d'abord à des situations d'urgence où il serait possible de perdre la raison. Non pas tellement au sens d'une folie absolue, mais au sens d'une absence de contrôle, d'une absence de mesure. On aurait donc une problématique de la faculté à utiliser et en même temps une problématique de la faculté à garder finalement face à des problèmes d'urgence, des pressions ou des passions qui pourraient soit la mettre entre parenthèses, voire même la remettre en cause.
Alors on va aller vers la formulation de cette problématique, qui doit être la question à laquelle presque obstinément il faut essayer de répondre pour y répondre en conclusion. On oublie d'ailleurs bien souvent de rappeler peut-être une évidence qui est qu'une dissertation c'est aussi une réponse à une question. Même si en philosophie, traditionnellement, on préfère les questions aux réponses. Alors, mais avant d'en venir à la formulation de cette problématique, juste un truc en introduction. On a parfaitement le droit, et c'est même plutôt bienvenu, de commencer par un exemple tiré de l'actualité concrète. Si je, face à un tel sujet, je pense à la déclaration conjointe, par exemple, au moment des bombardements de Gaza, du CRIF et du CFCM, qui appelaient les deux communautés, juives et musulmanes, en France, à ne pas importer le conflit et à raison garder, puisque l'expression, ils l'avaient employée. Si je fais référence à cela en m'interrogeant sur ce qu'ils ont voulu dire en disant cela, est-ce que j'ai raison, là encore, de commencer de cette manière?
Et là encore, décidément, ça s'annonce bien, votre copie d'élève idéale. Oui, on se rend compte qu'en fait, cette expression, on l'utilise souvent. Je me suis aussi rendu compte de cela en regardant un petit peu dans l'actualité, dans des problématiques politiques où il y aurait, soit du point de vue de la passion, soit du point de vue de la foule, enfin des excès possibles. Et on aurait donc cette idée de mesure, dans un premier temps, face à des problèmes en même temps urgents, importants, et évidemment des problèmes qui ont une importance par rapport à l'avenir dont il faudrait prendre compte.
Mais quel genre de mesures faut-il garder? Parce que quand on dit raison garder, est-ce que ça veut dire en gros vous êtes juif, vous êtes musulman, ne parlez pas du sujet, évitez les sujets qui fâchent en somme. N'en discutez pas pour rester bons amis, vous êtes dans la même classe, essayez de vous entendre. Enfin, essayez de pacifier les choses par le respect qu'on doit à autrui, à ses opinions, mais surtout peut-être la prudence qui consiste à ne pas en discuter, ou bien dire raison garder, c'est au contraire dire discutez-en et confrontez vos arguments. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est toute l'ambiguïté effectivement de cette expression, parce que dans raison garder, on a cette idée de retenue qui permet une discussion, une délibération, mais on pourrait aussi avoir une deuxième forme de retenue qui est finalement ce qu'on pourrait appeler une retenue sociale, en quelque sorte, ne pas parler des sujets qui fâchent, ou en parler de telle sorte que finalement on n'agisse jamais. Et semble-t-il, si on veut donner un sens fort à cette expression, ou défendre, on peut dire, cette expression, dans un premier temps, je crois qu'il faut essayer de trouver tout son sens, hein, toujours essayer de défendre une expression en l'analysant dans le sens pertinent qu'elle peut avoir. Il faut essayer donc de se demander comment raison garder, mais en affrontant les problèmes et non pas en les évitant.
Alors, s'il fallait formuler en une question, parvenir donc à cette problématique, disons une espèce de fil conducteur, de viatique pour toute la dissertation, ce serait quoi?
Moi, je verrais bien le lien entre le fait de se maîtriser et l'idée de mesure qui pourrait, à travers l'expression juste mesure, servir de norme. Et c'est une norme qui est intéressante. Alors là, on s'engagerait dans une problématique assez difficile ensuite à gérer, il faut le savoir, parce que ça ne va pas être évident de contester l'impératif de juste mesure. On pourra essayer, on essaiera, je pense, mais c'est probablement le problème le plus lourd, finalement. Si la raison gardée renvoie à l'idée de se maîtriser pour permettre la visée d'une juste mesure, on va évidemment avoir des analyses assez faciles, entre guillemets, à mener, en tout cas à envisager, pour défendre cette idée, mais on aura plus de mal à susciter un débat pour essayer de se demander comment finalement la juste mesure pourrait être un impératif finalement contre-productif, ou alors un impératif qui ramènerait quelques valeurs morales qu'on pourrait contester, des valeurs morales articulées à la retenue, à la maîtrise du corps, peut-être même à une certaine forme de mépris des passions.
Oui, de sorte qu'il y a éventuellement une connotation morale derrière cette idée, paradoxalement, de raison gardée. Alors,
oui, quel
plan on construit autour de ça? Donc on a bien noté, si raison garder c'est se maîtriser pour permettre la juste mesure, est-ce que la juste mesure n'est pas en elle-même contre-productive? Quel plan on fabrique autour de ça?
Alors il y a toujours une pluralité de plans possibles, et je crois que quand un élève se pose la question du plan, il doit toujours se la poser par rapport à ses intuitions, ses connaissances, tout ce qui vient de lui, et pas raisonner en termes de plan absolu. On peut toujours faire une copie correcte avec des éléments qu'on met en ordre, finalement c'est le but du plan, et inversement on peut faire une mauvaise copie avec un bon plan. Donc bien sûr il faut un plan, mais ça doit servir de guide, je pense, le jour du bac, ça ne doit pas être un absolu qui traumatise. Il s'agit de construire quelque chose qui aide ensuite à organiser. Alors moi j'envisagerais bien, en revanche, dans le plan, une réflexion sur l'ordre, c'est je pense le plus important. Autant il y a plusieurs plans possibles, autant quand on commence mal, on aura du mal ensuite à se rattraper. Je pense que quelques principes peuvent être utiles ici. Par exemple, essayer de commencer par ce qui est d'abord l'analyse du sens et la défense du sens de cette expression. Donc d'abord défendre l'impératif de raison garder, étant entendu qu'on remettra mieux en cause, d'une manière plus précise, ce qu'on a d'abord défendu et ce qu'on a d'abord analysé, ce qu'on a d'abord précisé.
Une petite chose, avant d'aller dans le cœur du sujet avec vous, François Pépin. La constitution d'un plan, en général, Sartre disait, thèse, antithèse, foutaise, la constitution d'un plan se fait-elle par l'addition des arguments en faveur d'une position, puis l'addition des arguments en la défaveur de cette position? Ou bien est-ce qu'il faut parvenir à une critique de la première position, mais à la lumière des analyses qu'on a d'abord développées?
Dans votre alternative, je pencherai évidemment pour le deuxième terme. Je pense que l'addition d'arguments, c'est un petit peu ce qu'on faisait dans des rédactions. On n'est pas dans ce genre de méthode en philosophie. Je préfère plutôt parler de lignes d'argumentation, essayer de construire quelque chose qui a une certaine unité, une suite dans les idées, avec éventuellement des pauses où l'on définit, où l'on se présente des objections, mais enfin qu'il y ait une progression. Même chose quand on passe, par exemple, d'une première partie à une deuxième partie. Un des buts, c'est évidemment qu'il y ait un débat, mais l'autre but, c'est qu'on avance, qu'on progresse. Donc il est très souhaitable que dans une seconde partie qui discute la première, on revienne sur ces points forts, ces arguments, voire qu'on renverse si l'on peut.
Et ça peut être intéressant d'ailleurs dans ce contexte de reprendre le même exemple. pour montrer qu'un exemple n'est pas seulement une illustration, mais qu'on le creuse.
Oui, tout à fait. Je pense que les exemples doivent être des enjeux et voir que les débats sont aussi sur les exemples. Et je dirais la même chose des définitions. Revenir sur les définitions, ça me semble un des objectifs assez difficiles à atteindre pour un élève de terminale, mais qu'il est souhaitable de viser. Essayer de construire des définitions qu'ensuite on remet en chantier. Pas de définition définitive en une phrase dès le début, et puis ensuite on n'en parle plus, ça y est, j'ai défini. Non, essayer de revenir à cette définition et éventuellement de jouer des argumentations qui se contredit sur les questions de définition, ici par exemple de la raison.
Évidemment. Et puis donner sa chance à l'argumentation d'en face. Alors allons-y avec vous François Pépin, première partie donc.
Alors je verrais bien une analyse de la raison comme faculté essentielle qui déterminerait un impératif d'usage. On pourrait dire jouer sur la double dimension, la faculté essentielle, disons le rationnel, et l'usage par rapport à des problèmes pratiques, surtout je dirais un usage à maintenir. Qu'est-ce que ça veut dire garder la raison, donc maintenir l'usage d'une faculté rationnelle.
Ça veut dire que si vous parlez d'usage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pure ici. Hein.
On sera plutôt effectivement dans une raison pratique, mais on pourra se demander si cette raison pratique prolonge ou applique une raison pure, ou alors si elle a une dimension tout à fait originale et nouvelle.
De quels exemples vous serviriez ?
Alors j'ai pensé beaucoup à construire cette partie autour de quelque chose que les élèves peut-être connaissent, s'ils ne connaissent pas, qu'ils se rassurent, ça n'est pas une obligation, mais c'est l'exemple de la forêt de Descartes dans le discours de la méthode.
Ouais.
Alors peut-être...
Allez-y, voilà. Racontez-la, oui.
C'est un exemple qui est censé illustrer une règle qui est assez intéressante parce qu'elle est à la fois finalement théorique et pratique. Il s'agit finalement de savoir, il nous dit Descartes, comment se conduire. Et finalement, se conduire, ça peut être dans les problèmes théoriques, mathématiques par exemple, aussi dans les problèmes pratiques. L'exemple de la forêt part de cette idée, que faire, ou de ce problème, que faire quand on est perdu dans une forêt. Et en fait, le grand coup de génie de Descartes, c'est de nous montrer qu'on n'est jamais perdu, même si on ne connaît pas le contour, parce qu'on peut se donner une direction qui nous fait sortir à coup sûr, c'est-à-dire marcher tout droit. Et en fait, on se rend compte que la réponse est simple, mais elle nous précise que le risque, c'est de ne pas ensuite appliquer ce qu'on a conçu au préalable. Par exemple, au moindre signe, se dire ah, « finalement, je vais aller à droite, à gauche ». Et là, on tournerait en zigzag, et la seule ligne qui nous amène dehors, c'est la ligne droite, et il faut la concevoir au préalable, ensuite l'imposer.
Alors, rien n'est plus difficile, évidemment, que d'aller tout droit, hein, comme de faire simple. On va lire d'ailleurs le texte de Descartes. Il dit ceci. On est dans la troisième partie du discours de la méthode. C'est le Descartes, assez peu cartésien d'ailleurs. En tout cas, ce n'est pas le Descartes qu'on retient en général. On se souvient davantage du Descartes qui veut nous rendre comme maître et possesseur de la nature. Ici, on a le Descartes de la morale provisoire, celui qui ajourne un petit peu la construction d'une morale définitive. On pourrait discuter d'ailleurs à l'infini de la question de savoir si la morale provisoire n'est pas sa morale définitive, puisqu'après tout, la vie est provisoire. Mais le texte en lui-même dit ceci. « Ma seconde maxime était d'être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais, et de ne suivre pas moins constamment les opinions les plus douteuses lorsque je m'y serais, une fois déterminé, que si elles eussent été très assurées, imitant en ceci les voyageurs, qui se trouvent égarés en quelque forêt, ne doivent pas errer en tournoyant, tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, ni encore moins s'arrêter en une place, mais marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent vers un même côté et ne le changer point pour de faibles raisons. Encore que ce n'ait peut-être été au commencement que le hasard seul qui les ait déterminés à le choisir. En somme, peu importe où vous allez, l'essentiel, ce qui compte, c'est la façon dont vous vous y rendez.
Tout à fait. Et ce qui est, je crois, remarquable, c'est comment la contingence de la situation est finalement renversée en une nécessité, la nécessité d'un ordre conçu par le sujet. Et je crois que c'est intéressant pour revenir à notre double dimension, le rationnel et le raisonnable, c'est que bien sûr, il s'agit de sortir de la forêt. Mais en même temps, le sujet se construit dans ce problème et se manifeste à lui-même la maîtrise qu'il a de lui-même et des problèmes qui peuvent se poser à lui. On voit que Descartes, c'est souvent le cas dans ces textes-là, en quelque sorte nous donne le fruit d'une délibération intérieure, d'un questionnement qui amène finalement à construire des réponses. Et l'errance, qui est le grand ennemi, qui enverrait plutôt un labyrinthe ici, nous montre bien qu'il s'agit de se donner une ligne, de se construire des repères et qu'il ne préexiste pas, mais que c'est le sujet qui se les donne justement par l'ordre qu'il conçoit ou la réponse qu'il construit pour sortir d'un problème.
Donc en somme, ce qui fait le lien entre le rationnel et le raisonnable, qui est donc l'ambivalence hein, du sujet, ce qui fait le lien entre le rationnel et le raisonnable, c'est l'aptitude humaine à se donner un but et par là même à être pour lui-même une boussole.
Oui, je pense qu'effectivement, on pourrait faire des analogies tout en gardant en tête ce que vous avez dit des différences hein, dans l'œuvre de Descartes entre peut-être des problèmes pratiques un peu oubliés au début et puis qui reviennent, et des problèmes théoriques. Mais on pourrait voir que pour Descartes, la notion d'ordre face à un problème dont il s'agit de traiter les données pour construire une réponse et ce faisant aussi construire sa propre maîtrise de soi, sa propre, on pourrait dire, subjectivité, tout cela, ça articule le rationnel et le raisonnable. Je crois qu'ici, on est dans une distinction qui associe et pas tellement dans une distinction qui sépare et isole.
Oui, on retrouve la phrase qu'Alain retenait de Descartes, hein, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Et on retrouve également, d'ailleurs, la méthode de la dissertation. Il faut y aller, il faut se donner un but et on vous jugera moins sur le fond que sur la façon dont vous articulez votre démarche. Donc, alors, au-delà de cette analyse, sur quoi débouche-t-elle? Qu'est-ce qu'elle nous permet de trouver? Qu'est-ce qu'on trouve quand on se donne une destination, quand on s'invente une boussole finalement, et qu'on marche?
Alors, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on est dans un problème très particulier parce qu'on n'est pas vraiment perdu, je crois, dans la forêt de Descartes. C'est-à-dire que, dès le départ, je sais que je vais en sortir. Et de ce point de vue-là, on a une espèce de manière de se rassurer qui est fondamentale pour Descartes. C'est-à-dire, le premier acte pour se maîtriser, c'est d'abord se dire qu'on va pouvoir s'en sortir. Et du coup, je crois que le premier moment, c'est de prendre conscience qu'on a une faculté rationnelle et que finalement, tant qu'on la garde, nous n'aurons pas de difficultés insurmontables, ou alors, comme dit Descartes, insurmontables, mais pas notre faute, donc finalement, ça ne me regarde quasiment pas. Ce qui me regarde, c'est sortir d'une difficulté. Donc je dirais qu'il y a la faculté qui prend conscience d'elle-même dans ce genre de problème. Et deuxièmement, ce qui est intéressant, puisque si l'on garde la raison, c'est qu'on peut la perdre, c'est que cette faculté, il serait possible que je l'oublie, que l'urgence ou que la peur dans la forêt me fasse perdre l'usage de ce qui me définit quand même. Et du coup, on a la possibilité d'un réel impératif. Hein. On a « doit-on hein. ». Souvent, les élèves oublient ces petits mots. S'il y a le devoir, ils vont y penser. Mais s'il y a le verbe devoir, ils vont un peu oublier. Ça doit pouvoir se présenter comme un impératif. Et ici, je dirais qu'on a un double impératif. D'un côté, évidemment, pour moi-même, pour mes problèmes pratiques, me sortir d'un mauvais pas. Et puis, d'un autre côté, en quelque sorte, il y a cette idée que je me dois à moi-même de respecter cette raison qui me définit. Je me dois à moi-même de me construire par rapport à elle.
Et en même temps, on pourrait imaginer que perdre la raison par un excès de raison. On pourrait considérer qu'il y a une rationalité folle, un savant fou par exemple, qui voudrait recréer la vie à partir de la raison, ou qui voudrait appliquer le filtre de la raison à des catégories qui ne sont pas les siennes, ou qui voudrait par exemple percer le mystère du sourire de la Joconde. D'ailleurs, chaque année, il y a une armée de scientistes qui se penchent sur la Joconde pour essayer d'en connaître le mystère. Est-ce qu'on n'est pas là en présence d'une objection possible à la position qui est la vôtre, à savoir qu'un raison gardée à tout prix, c'est parfois appliquer la raison à ce qui devrait lui échapper?
Alors je crois que c'est une objection évidemment très, très pertinente. On peut essayer ici, dans cette partie, hein, dans ce moment de la réflexion plutôt, de contourner ou de dépasser l'objection en se disant que, pris comme raisonnabilité, la raison comme juste mesure ne peut pas avoir d'excès, au sens où la juste mesure serait précisément l'art de ne pas commettre d'excès ni de défaut. Et de ce point de vue-là, dans ce que Descartes nous propose, on voit qu'il y a une vertu cardinale, la prudence, qui doit nous amener vers le juste chemin. Et en ce sens, c'est un peu le paradoxe de la prudence cartésienne, en ce sens, il n'y a pas d'excès de prudence, parce que la prudence est simplement le moyen d'obtenir la bonne réponse. Donc ça n'est pas faire exprès d'aller lentement, c'est aller lentement parce que, comme ça, je me donne des outils pour aller sûrement.
Là-bas, rien n'est comme ici. Là-bas, tout est différent. Pourtant, les chats aussi sont gris. Et les lilas bleus. Pourquoi dites comment? Il est
François Pépin est avec nous aujourd'hui, notre invité dans le cadre d'une semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent, c'est une tradition désormais, au bac philo. 5 sujets dans la semaine pour vous, chers lycéens, chers auditeurs, chers enseignants. Aujourd'hui, doit-on toujours raison garder? Comme toujours, la philosophie pose les bonnes questions. Alors, François Pépin, on est au début de ce chemin, on va avancer un peu plus vite maintenant que la méthode est acquise. On est au début de ce chemin et vous envisagez la possibilité de la prudence. J'ai envie de vous demander si le terme de prudence n'est pas, là encore, ce terme, un juste milieu, peut-être une juste mesure entre une rationalité et une rationalité pure et une raison pratique, une raison applicable au quotidien, puisqu'après tout, l'homme prudent, c'est celui qui a le courage, paradoxalement, de ne pas chercher dans la référence à des valeurs absolues la norme de son action, mais de la chercher au quotidien, à vue de nez. C'est aussi, malgré tout, celui qui navigue à vue, non, l'homme prudent?
Alors effectivement, ça serait une bonne médiation entre nos deux notions. Je pense d'ailleurs que c'est assez remarquable. On voit que, puisqu'on parlait de Descartes, dans le discours de la méthode, dans la deuxième partie, pour les règles de la méthode, règles très théoriques, très abstraites, des grands principes pour conduire sa raison, on a la vertu cardinale de la prudence et que finalement, on la retrouve aussi dans les règles pratiques. Descartes nous disant, par exemple, qu'il vaut mieux, dans le doute, s'en tenir aux attitudes moyennes parce qu'elles sont, un, moins éloignées de l'erreur, parce que si on se trompe, il est plus facile de corriger quand on a pris le milieu. Et puis deuxièmement, plus facile à mettre en œuvre finalement dans un contexte social. Donc je crois qu'effectivement, cette prudence pourrait être une vertu cardinale d'une raison à la fois rationnelle et raisonnable.
Alors allons au-delà. Parce qu'on peut aussi dire, oui mais quel ennui.
Bien sûr.
Quel ennui si c'est la prudence, la raison, le calme et la pondération qu'on doit opposer à tout ce qui se passe dans le monde. Où va-t-on en suivant un tel chemin, François Pépin? Est-ce que c'est là une objection qui justifie d'ailleurs qu'on change de registre ou de parti?
Oui, je pense que c'est une bonne manière de présenter ce que souvent on appelle des transitions, c'est-à-dire finalement une manière de rebondir, une manière de relancer des problèmes. Finalement, considérer que la prudence peut avoir un côté très ennuyeux et peut-être aussi un côté un petit peu limitant. On n'exploiterait pas toutes nos possibilités en étant prudent, donc que finalement on aurait bien envie d'avoir le droit, quelque part, de commettre certains excès, évidemment pas n'importe lesquels.
Alors allons-y.
Je proposerais donc de nous intéresser dans une deuxième mesure, alors ce ne sera pas une partie facile, mais à essayer de construire, enfin essayer de nous intéresser à cette idée qu'on pourrait construire comme on peut rompre avec le principe de mesure, c'est-à-dire non pas commettre des excès, mais finalement dépasser la question de savoir s'il y a une mesure par rapport à laquelle il y aurait des excès. Et là, je propose, c'est toujours intéressant de construire des parties autour de distinctions, de distinguer la grandeur et l'excès. Faire preuve de grandeur, être capable de grandes et belles actions pour dépasser la problématique de la mesure par rapport à laquelle tout ce qui va au-delà est un excès.
Est-ce qu'on peut prendre des exemples politiques pour illustrer ce que vous dites? Distinction de la grandeur et de l'excès. Je ne sais pas moi, un dictateur est excessif, mais il existe des grands hommes d'État qui, loin d'être des dictateurs, ont pris leurs opinions parfois à contre-pied. Je pense à François Mitterrand, en l'occurrence, et à l'abolition de la peine de mort. Est-ce qu'on n'est pas là en face d'une décision qui relève de l'ordre de la grandeur, justement?
Alors, je pense que sur cet exemple, ça se défend très bien, effectivement.
Restons sur cet exemple.
Effectivement, ça se défend, c'est-à-dire qu'il peut y avoir certaines actions qui montrent un courage, voire même qui, sur le plan politique, on dirait peut-être sont suicidaires. Et là, on aurait cette idée, raison gardée, lui diraient les conseillers du président. Le peuple n'est pas prêt. Bon, bien sûr, c'est très souhaitable moralement. Et puis la justice aura peut-être des problèmes d'efficacité, etc. Et finalement, l'intérêt de la grandeur, c'est de nous dire, mais je ne veux même pas me préoccuper de tout ça, ou je veux dépasser tout ça par des impératifs qu'on peut appeler peut-être plus grands, plus nobles. Alors évidemment, si on veut préciser la grandeur, on pourrait dire plus haut, plus élevé. Et là, je pense qu'effectivement, on a affaire à un dépassement de la problématique de la mesure pour d'autres modèles estimé supérieur.
On parle ici d'imprudence.
Alors, est-ce que c'est de l'imprudence ou est-ce que c'est finalement complètement autre chose, une autre problématique? Et là, on opposerait non plus tellement la prudence à l'excès, mais la mesquinerie à la grandeur ou, pour dire, refuser de se préoccuper, dans certains cas, évidemment, de certaines considérations qui, pour autant, pourraient relever de ce qu'on nomme de la prudence, donc ils ne sont pas évidemment complètement stupides.
Et quelles sont les références philosophiques alors qui iraient philosophiques ou littéraires? D'ailleurs, il faut préciser une chose, hein, d'ailleurs, c'est que la référence philosophique n'est pas forcément, enfin, n'est pas une obligation contractuelle du bachelier. Après tout, une référence littéraire fonctionne aussi dans la mesure où le traitement des exemples est effectif, c'est-à-dire où on creuse un exemple. C'est-à-dire l'essentiel est de se conduire en philosophe et pas de jeter de la poudre philosophique aux yeux du correcteur qui, de toute façon, ne sera pas dupe. Mais quelle référence pour illustrer un tel propos?
Alors, justement, j'avais envie plutôt de prendre une référence littéraire et dans le but vraiment très déterminé de montrer aux élèves que n'importe quoi peut être utilisable à condition de le traiter, de l'approfondir. La qualité d'un exemple n'est pas dans le côté littéraire ou culturel, mais vraiment dans l'usage qu'on en fait. Et je veux penser à ce bel exemple qu'encore une fois les élèves peuvent connaître de Cyrano qui commet un geste excessif et pour autant un geste très grand quand, si on se souvient bien, au tout début, dans le premier acte, il annule une pièce et évidemment... tout un tas d'arguments lui semblent mauvais, mais il y en a qui lui semblent bons, c'est que ça coûte de l'argent au propriétaire du théâtre. Et il jette sa bourse d'un geste très beau, et finalement, tout est dans le geste, et à la fin, son ami, Lebray, lui dit « mais enfin, tu n'as plus rien ». Il lui dit « non, j'ai tout donné ».
Pension paternelle en un jour du vécu.
Tout à fait.
Ça. Et pour vivre alors, rien ne me reste. Jeter ce sac, quelle folie, mais quel geste.
Mais quel geste. Et là, je crois qu'on a vraiment cette idée que ça coupe la discussion. C'est le geste. Je voulais véritablement faire preuve de cette grandeur d'âme qui consiste à oublier, finalement, qu'il ne me restera rien. Il donne trop puisqu'il donne tout, bien sûr. Mais c'est justement parce qu'il donne trop que c'est grand.
Alors, il y a deux questions là-dessus. Hein. D'abord, sur Cyrano est une lecture obligatoire, hein, en particulier en terminale, et même avant, d'ailleurs. Cyrano a son interlocuteur, Lebray, qui est son ami, qui est le porte-parole de ce que Max Weber appellerait l'éthique de responsabilité. Il faut être prudent, il faut faire gaffe, il faut flatter Richelieu, il faut accepter qu'il change quelques vers pour pouvoir faire paraître sa pièce Agrippine, etc., etc. Cyrano ne passe aucun compromis, il a décidé d'être admirable en tout et pour tout, voilà son système. Et dans ce dialogue entre la grandeur de Cyrano, certains diraient l'ubris ou la démesure de Cyrano, et la rationalité très ennuyeuse du sympathique Lebray, il y a peut-être tout le débat qui nous agite aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Et peut-être qu'on pourrait considérer ce débat à deux niveaux. D'abord, quand on lit la pièce, évidemment, on est très enthousiaste dans, on pourrait dire, la grandeur de Cyrano, et évidemment, on a tendance à préférer Cyrano, mais on pourrait aussi transposer ça en termes de vie pratique. Quand quelqu'un nous dit « j'ai décidé d'être admirable en tout pour tout », dans un premier temps, on va lui dire peut-être un peu excessif. Ce qui a une très belle dimension de grandeur dans des œuvres littéraires, sur le plan pratique, pourrait être beaucoup plus gênant. Et on aurait peut-être, en prenant un exemple littéraire, en se souvenant qu'il est littéraire, à distinguer entre des modèles extrêmement beaux à méditer, peut-être, et puis des modèles pratiques à suivre. Et on pourrait donc aussi essayer de confronter la grandeur et la prudence en se demandant si ça ne dépend pas aussi des niveaux et des enjeux.
Alors, les arguments en faveur de la grandeur culminent vers quoi? Où nous conduisent-ils, précisément? Cette critique de la prudence par la grandeur.
Alors, ils nous conduisent à un problème, effectivement, ce qu'on pourrait appeler le critère. Qu'est-ce qui va valoriser, justifier et évaluer la grandeur? Chez Cyrano, pour partir de lui, on a des critères très différents. Par exemple, on a le regard d'autrui. Évidemment, il s'agit de se montrer grand aux yeux des autres. Et ce critère, probablement... En tout cas, un premier niveau le plus discutable, puisque ça consiste à mettre son bonheur dans l'âme d'autrui, comme disait Marc Aurèle. Et de ce point de vue-là, on est toujours dans la dépendance par rapport à un regard. Mais en fait, on peut se dire que finalement, le regard des autres est...
Mais le problème de Cyrano, c'est la grandeur de son nez.
C'est la grandeur de son nez aussi.
C'est la grandeur de son nez qu'il installe de toute façon sous le regard d'autrui.
Tout à fait.
Ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède fait que de toute façon, il ne peut pas vivre sans le regard d'autrui.
Oui, et qu'il doit peut-être montrer sa grandeur d'âme pour cacher la grandeur de son nez.
La grandeur de son nez, oui. Et
surtout aux yeux, évidemment, de sa bien-aimée. Mais on a ici, effectivement, un problème qui n'est pas évident et que les élèves l'affrontent sera très bienvenu, qu'ils n'arrivent pas entièrement à le résoudre. Ce n'est pas forcément une catastrophe. C'est-à-dire, quel pourrait être le critère de la grandeur pour justifier qu'on dépasse l'impératif de prudence? Et je crois qu'ici, ça consiste essentiellement à se poser les questions de mode de vie et de ce qui oriente un mode de vie. Et on pourrait envisager l'idée que finalement, il y a aussi des problématiques de caractère, pas seulement des absolus, mais que finalement, Lebray et Cyrano sont deux caractères possibles qui n'ont pas forcément de conflit direct, puisqu'on a plutôt l'impression que c'est un dialogue de sourds quelque part, mais simplement qui arrivent à s'apprécier et qui sont et qui resteront jusqu'à la fin très différents.
Modèle d'un dialogue philosophique. Qu'est-ce qui distingue, j'y pense en vous parlant là, François Pépin, qu'est-ce qui distingue le couple Cyrano-Lebray du couple Alceste-Philinte, du couple du misanthrope? Autant Cyrano est admirable et Lebray est sympathique, autant Alceste est un épouvantable casse-pied et Philinte passe pour, à tort à mon avis d'ailleurs, un homme hypocrite.
Je dirais qu'il y a une deuxième grandeur dans Cyrano qui pourrait peut-être installer la distinction, c'est le sacrifice, la capacité à faire un sacrifice extrême, puisqu'il consiste finalement à sacrifier son amour, et pas seulement à sacrifier son amour, mais aussi à sacrifier ses propres qualités.
Oui, alors qu'Alceste demande à son amour de se sacrifier
voilà,
pour lui.
Tout à fait. Et je pense que là, on a une grandeur froide, peut-être une grandeur chez Alceste un petit peu effrayante, alors que chez Cyrano, on a une grandeur qui enthousiasme, une grandeur finalement qui donne tout ce qu'il y a de fort dans la passion, y compris dans son excès.
Non, non, je ne veux pas t'écouter plus longtemps. Laisse mon âme, laisse mon âme sans
François Pépin est notre invité aujourd'hui dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Doit-on toujours raison garder? C'est le sujet du jour, c'est le sujet de ce lundi qui inaugure une semaine que Les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent au bac philo, comme chaque année. Alors, François Pépin, on en était à la fin de la deuxième partie, ou en tout cas, on avait bien avancé dans la deuxième partie, et cette idée que vous opposiez en somme la grandeur à la prudence, et aussi qu'il fallait distinguer entre la grandeur et la démesure, c'est-à-dire le sens du sacrifice, en ce qui concerne la grandeur, justement. Alors, où va-t-on maintenant qu'on a opposé la grandeur à la prudence, après avoir fait de la prudence, d'ailleurs, le modèle d'une rationalité raisonnable?
Alors, je propose de rebondir sur la question du critère, et notamment sur ce qui pourrait sembler encore être maintenu par Cyrano, c'est-à-dire un impératif de maîtrise. Parce que Cyrano, bien sûr, rompt, semble-t-il en tout cas d'après ce texte, avec la sortie de l'errance qu'on avait chez Descartes, c'est-à-dire l'ordre clair et prudent. Mais en même temps, tout ce que fait Cyrano montre une maîtrise énorme, une maîtrise littéraire, une maîtrise, on pourrait dire aussi intellectuelle, une maîtrise évidemment dans l'art de se battre. Et puis aussi...
Cyrano dit ceci, hein, pour un rien se battre ou faire un verre. Donc il a un rapport, effectivement, presque de légèreté, de nonchalance à l'endroit des décisions les plus graves de la vie.
Et en même temps, dans cette légèreté, quand il se bat, il fait une balade, et sa balade montre un art consommé. Et dans une certaine mesure, l'impératif de Cyrano a un côté systématique. Être admirable en tout, pour tout. Et donc, il y a encore cette idée qu'on a un projet, bien sûr qui n'est plus orienté par la vertu de la prudence, mais un projet, un mode de vie global qui pourrait peut-être encore relever de la maîtrise. Et moi, je proposerais d'envisager quelque chose qui soit une rupture complète avec le principe de maîtrise, avec cette grande difficulté, est-ce que ça peut avoir un sens? Est-ce que ça peut être pertinent? Est-ce qu'on peut vraiment rompre avec la raison gardée comme impératif de maîtrise? Est-ce qu'on peut envisager la rupture complète avec le principe de se maîtriser pour savoir quoi faire?
En somme, le tort de la position prudente qui était celle de la première partie, c'était qu'elle passait sous silence la grandeur et que de sorte que la prudence débouchait sur une certaine forme d'ennui. Et le tort de la grandeur dans la deuxième partie, c'est qu'elle abjure la raison et que répudiant la raison, elle peut se perdre elle-même.
Elle pourrait aussi se perdre elle-même et d'ailleurs, il est possible que Cyrano, à certains moments, n'en soit pas loin.
Alors allons-y.
Alors allons-y. Comment à la fois subvertir le principe de maîtrise tel qu'on l'a défini, et en même temps essayer de ne pas être dans un excès qui ferait qu'on se perde complètement. Je propose, c'est pas facile à formuler, en général, je propose de le formuler par une distinction qui est extraordinaire, une distinction que le philosophe du XVIIIe, à la fois médecin et philosophe, Lemaître, propose, c'est la distinction finalement entre la volupté et quelque chose qui est souvent associé à l'époque, mais que la maîtrise distingue, la débauche. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle distinction.
À l'appui de raison gardée, vous citez un homme qui est mort d'indigestion.
Tout à fait. D'accord. Mais c'est à l'appui de raison gardée en un sens extrêmement précis. C'est-à-dire que la maîtrise va invoquer la raison contre des excès comme le fanatisme religieux, comme évidemment aussi l'excès de passion ou l'excès qui, par exemple, en tant que médecin, il l'a vu, met en jeu la santé. Mais en même temps, ce que Lemaître pose comme vertu cardinale, ce qu'il appelle volupté, c'est une espèce de nouveau rapport à soi, qui n'est pas un rapport de maîtrise immédiate, mais qui passe par l'essence, par la manière de sublimer l'essence, la manière de se perdre en sachant qu'on se perd. Et je crois que la notion peut-être qui peut traduire ça le mieux, c'est la notion de jeu avec les limites. Jouer, aller un peu plus loin, jouer, aller jusque sur la limite.
Est-ce que vous parleriez ici d'eumétrie, au sens que les épicuriens pouvaient donner à ce terme, garder une bonne distance ?
Je pense qu'il y a un épicurisme chez Lemaître, mais ici...
Je ne parle pas de Lemaître,
Lemaître. Oui, mais je pense qu'il y a une certaine distance dans cette idée, au sens où on pourra aller un peu plus loin, à condition de le savoir et de jouer sur ce léger transport, ce léger excès, qui fait qu'il y a un côté piquant, et en même temps, comme on sait qu'on va trop loin et comme on sait que c'est le plaisir surtout de franchir la limite qui importe, on ne va pas trop loin, si je puis dire, ce que Lemaître appelle la débauche, par exemple dans tous les livres plus ou moins érotiques qu'il lit et dont il parle, c'est finalement tout montrer trop vite, alors que lui ce qu'il aime c'est des limites, pourquoi ? Parce qu'on peut les franchir, on peut jouer avec. Et du coup finalement il place, c'est assez remarquable, il place finalement les interdits théologiques dans le cadre d'une espèce de libertinage de la volupté, comme finalement très utile, parce qu'on peut jouer avec.
C'est ce que j'allais vous dire. Dans ce cadre-là, la religion a cette vertu de poser des interdits qui rendent voluptueuse la transgression.
Tout à fait.
Mais alors, jusqu'où peut-on aller trop loin ? Puisque c'est ça la question.
C'est effectivement la grande question. Et là, la notion de volupté chez Lemaître est intéressante. Alors, elle renvoie à une certaine dimension de la raison, c'est-à-dire qu'il s'agit de se construire aussi. On va retrouver cette idée qu'on se perd autant que ça, non seulement ça nous amuse, mais au sens où après on peut se retrouver. C'est-à-dire qu'il s'agit de se fondre un petit peu dans les sens et ensuite dans le plaisir des sens pour ensuite se retrouver dans cette idée qu'on construit un mode de vie, qu'on a aussi réussi à organiser dans une certaine mesure ses plaisirs.
Quel modèle pratique, alors sortons peut-être un instant de Lemaître, quel exemple presque trivial pourrait-on donner d'une telle position en somme ? Moi ça me fait penser à, vous savez il y a ce poisson fameux au Japon, le fugu. Le fugu est fameux, alors d'abord parce que sa chair paraît-il est délicieuse, mais elle l'est d'autant plus que les ovaires et les organes de façon générale de ce poisson contiennent une neurotoxine dont l'ingestion provoque une paralysie quasi immédiate des systèmes respiratoires et nerveux. De sorte que quand on déguste un fugu, on se remet entre les mains du cuisinier, qui, s'il n'est pas rationnel, s'il ne garde pas raison, vous prive de la vie. Et donc c'est ce risque. Et il arrive, paraît-il, que certains cuisiniers laissent échapper une goutte infime de ce poison qui donne à celui qui le déguste le vertige de la mort, un léger vertige. On a la tête qui tourne, on envisage la possibilité de mourir. Est-ce qu'on pourrait comprendre ça comme ça ?
Tout à fait, d'autant plus que Lemaître a écrit un traité sur le vertige. Donc, même si on peut sortir de ce qu'il dit, on a cette idée que finalement il s'agit de jouer sur ce transport, ce dessaisissement en quelque sorte du sujet. Pas total, puisqu'on va pouvoir se retrouver, mais qui rompt avec cette idée qu'on a toujours un rapport à soi de contrôle et de maîtrise. Et il faut prendre des risques finalement, des risques aussi où on perd le contrôle, tout en reconnaissant que finalement on ne peut pas l'avoir totalement. Donc il y a à la fois cette lucidité et en même temps ce plaisir dans la perte de contrôle reconnue, acceptée comme telle, et en même temps évidemment organiser, c'est un paradoxe, mais organiser en tout cas pour éviter ces excès de telle sorte qu'on puisse quand même se retrouver.
Vous voulez dire qu'il serait déraisonnable d'être raisonnable en toutes circonstances ?
Oui, on peut dire ça comme cela, c'est-à-dire de marteler, d'imposer ce principe de mesure ou de raisonnabilité, par exemple de calculer les conséquences tout le temps. Il faut parfois ne pas calculer les conséquences et on peut vraiment le présenter comme un impératif. On parlait du fougou, on pourrait parler aussi des relations amoureuses. Il y a bien des moments où il faut savoir ne pas calculer combien de dots ça va me rapporter, enfin bon, etc.
Alors, s'il est déraisonnable de ne pas être raisonnable tout le temps, il est donc raisonnable de parfois perdre la raison. Et on est là au cœur d'un mot, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être le mot-clé, hein, le mot de « je ». Est-ce qu'en somme, raison gardée ou raison préservée n'impose pas nécessairement de jouer un peu avec sa raison ?
Je pense que c'est effectivement une idée très intéressante à défendre. Peut-être que ça permettrait de voir que la raison qui joue n'est pas seulement la raison kantienne, alors là c'est peut-être moins pour les élèves de terminale, mais cette raison kantienne qui joue sur la limite en un sens un peu différent. Là on a vraiment un jeu qui a une dimension ludique. C'est aussi un plaisir de la raison. La raison est caractérisée aussi comme une faculté qui est liée au plaisir, qui est liée à un rapport à soi où on aime finalement jouer, on aime parfois perdre, à condition de pouvoir rejouer. Et il y a toute une dimension qui est effectivement une esthétique du jeu dans cette question. Je crois que c'est quelque chose, évidemment, de pas facile à manipuler dans une dissertation, mais le simple fait de se confronter à ce genre de problème va montrer un candidat qui est capable de, finalement, d'abord de traiter de choses pas très banales, pas très évidentes, et en même temps d'affronter des problèmes avec ses instruments, et puis de faire ce qu'il peut. Je crois que c'est essentiel.
Mais alors vous dites ne pas calculer les conséquences, hein, c'est l'expression que vous avez employée à un moment, être capable de temps en temps de ne pas calculer les conséquences de ses actes. Alors évidemment, tout dépend des circonstances. Tout dépend des circonstances et j'ai envie de vous demander, en vertu de quels critères peut-on savoir qu'il est ici opportun ou inopportun de ne pas calculer les conséquences de ses actes ? Quand est-ce qu'un homme a raison de dire « je me fiche des conséquences de ce que je fais » ?
Alors c'est une question difficile et on pourrait se demander s'il faut la poser en termes de critères généraux, au sens où on est peut-être encore en train de retrouver finalement un principe de raison gardée qui nous dirait quand on ne doit pas raison garder, au sens où il faudrait...
Oui, c'est une forme de prudence.
Voilà, une forme de prudence qui, par avance, ou en tout cas dans la généralité, nous donnerait des orientations suffisantes pour finalement se faire peur un petit peu de temps en temps. Là, je verrais bien l'exemple du fougou, se faire peur, et puis après, quand on retourne au travail, quand on retourne dans la vie sociale...
Oui, ou sauter à l'élastique, par exemple.
Sauter à l'élastique. Je pense que c'est une voie qui a peu de mérite. Mais on pourrait évidemment aussi après rebondir si on est dans l'autre voie. C'est-à-dire si on ne veut pas édicter des critères absolus ou des critères très prudents, savoir quand perdre la prudence. Évidemment, la question c'est comment éviter les excès de cette attitude.
Le titre de cette chanson, Borderline, dit assez ce dont nous parlons avec vous, François Pépin. Doit-on toujours raison garder ? C'est le sujet du jour dans cette semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent au baccalauréat. 5 sujets cette semaine pour vous, pour les étudiants, pour les auditeurs et pour leurs enseignants. Alors, François Pépin, juste, on en était à la question de savoir, on est à la fin de la dissertation, hein, on en était à la question de savoir selon quels critères, et s'il fallait d'ailleurs fabriquer des critères à l'intérieur desquels on sait quand on garde la raison et quand on ne la garde pas, finalement l'édiction de tels critères aurait pour effet de tout simplement d'être de simplifier la question, hein, de remplacer un problème par un catalogue ou par un catalogue de circonstances. Mais peut-être faudrait-il procéder autrement et partir de l'intérieur, c'est-à-dire d'un exemple. Si par exemple vous travaillez dans une usine et que votre usine est fermée parce que l'entreprise qui possède cette usine a besoin de fermer cette usine ou de la délocaliser, soi-disant, pour faire des économies. Vous aurez des tas de gens qui, armés de leurs raisons, diront et expliqueront pourquoi il est nécessaire de fermer cette usine, parce que dans le régime de la concurrence mondiale, il est important de fermer une usine, de diminuer les coûts de production pour ne pas mettre la clé sous la porte. Et puis vous avez ceux-là parleront au nom de la raison. Seulement vous aurez en face ceux qui se feront virer, qui perdront leur emploi et qui parleront au nom d'une autre raison et qui n'auront pas moins raison de dire « Écoutez, tout ce que vous dites est peut-être juste et vrai, mais je m'en fous. en somme. Les conséquences, en l'occurrence, ne m'intéressent pas, puisque là, dans l'immédiat, la victime, c'est moi. Est-ce qu'on n'est pas là, justement, dans un modèle de raison gardée ou raison oubliée ?
Oui, je pense qu'effectivement, on a, dans ces impératifs sociaux et politiques articulés à la raison, une dimension du sujet qui...
On dit souvent, je veux dire, il ne faut pas réduire les individus à des chiffres.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et là, on voit que finalement, vous avez opposé la vie, quoi, la possibilité de continuer à vivre, non pas l'argent en tant que quantité, mais l'argent en tant que ressource pour vivre avec sa famille, à des impératifs financiers où l'on calcule des taux de rentabilité. Et effectivement, dans raison gardée, moi je la verrais plus, s'il fallait la mettre d'un côté, cette expression, finalement, du côté de l'impératif qu'on justifie pour... délocaliser. Bon. On pourrait opposer une autre raison, effectivement, une raison alternative. Peut-être d'ailleurs qu'on pourrait retrouver non plus la question du critère, mais la question du guide, finalement, d'avoir au moins un grand guide, une grande orientation qui serait peut-être la vie bonne, ou la possibilité qu'une collectivité permette à chacun d'avoir une vie satisfaisante. Évidemment, on pourra peut-être pas aller plus loin dans la précision de cette vie satisfaisante.
En même temps, dans son introduction aux sciences de l'esprit, Dilthey, que les élèves de terminale connaissent en général assez peu, distingue entre comprendre et expliquer. Il y a ces choses qu'on explique, hein, on peut expliquer la fermeture d'une usine selon une logique comptable, et il y a ces choses qu'il faut comprendre, c'est-à-dire la douleur de celui qui en fait les frais. Est-ce qu'une telle distinction trouve sa place dans le cadre de cette question et de raison gardée, finalement pour déployer ces deux ordres de raison ?
Oui, je pense que c'est une distinction utile. Et les élèves connaissent assez peu Dilthey, mais ils ont maintenant cette distinction, les espèces de distinctions repères qui sont à la suite du programme. Donc ils peuvent
entre
aussi,
comprendre et expliquer.
Oui, ils ont ça. Donc ils peuvent utiliser cela. Et je pense qu'effectivement, ça permet de préciser les enjeux. Alors, est-ce que ça nous permet d'avoir une réponse générale ? Encore une fois, je ne suis pas tout à fait sûr ici, mais on n'est pas obligé de conclure d'une manière dogmatique.
Alors justement, mais concluons d'ailleurs, parce qu'il faut conclure. Il faut rappeler d'ailleurs, hein, puisqu'on en vient à la conclusion, que l'essentiel dans la conclusion, c'est de répondre quand même à la question qu'on a posée. Donc, reprenons la question et concluons.
Oui, quand je disais ne pas conclure d'une manière dogmatique, il faut toujours conclure de manière précise. Ici, on pourrait conclure en disant que si l'on suit notre progression, il ne faut pas toujours raison garder, à condition d'entendre par là que la rupture avec la raison n'est pas forcément un excès, ça peut être d'autres valeurs, d'autres normes ou une autre manière d'envisager la raison. Non plus comme quelque chose qu'on garde, mais comme quelque chose qu'on construit, quelque chose qu'on remet en jeu, pour jouer sur l'expression.
Et donc, ça veut dire que toujours raison garder serait raisonnable et qu'en somme, il y aurait derrière cet impératif, doit-on toujours raison garder, quelque chose qui est de l'ordre de la coercition, de la contrainte. En somme, un chef d'État qui dit à ses gens, soyez raisonnables, est-ce que cette parole relève d'un ordre qui serait celui de la contrainte, selon vous, ou dans cette perspective ?
Oui, on peut tout à fait le défendre, surtout qu'il va l'énoncer en disant, il faut être raisonnable, c'est-à-dire considérer que c'est un impératif qui dépasse le choix, c'est un impératif qui s'impose, une espèce de fatalité en quelque sorte. Il faut être raisonnable. Et là, je pense qu'effectivement, si c'est énoncé comme cela, il sera intéressant, dans la disserte comme ailleurs, de rompre avec ce genre d'impératif.
Mais est-ce que ça ne renvoie pas à une différence de point de vue entre d'un côté celui qui gouverne et de l'autre ceux qui sont gouvernés ? Est-ce qu'en somme, le devoir de celui qui gouverne, on peut prendre un ultime exemple, on est vraiment là au terme de cette émission avec vous, François Pépin, mais juste un ultime exemple, est-ce qu'en somme, il n'y a pas d'un côté Créon qui fait régner la loi et qui, de façon déraisonnable d'ailleurs, désigne Polynice comme coupable alors que Éthéocle l'était tout autant, donc le roi de Thèbes qui, pour réconcilier son peuple, lui donne un bouc émissaire, et de l'autre côté Antigone qui a elle-même tout à fait raison de vouloir rendre les hommages funéraires de la même manière à ses deux frères. Est-ce que finalement il n'y a pas ce conflit de point de vue ?
Oui, il y a un conflit de point de vue, mais on peut aussi se poser la question de la priorité. Antigone vantant la priorité de la loi du père, finalement, la loi naturelle. Et là, ça nous amènerait effectivement à la question de savoir si on peut trancher ce conflit en imposant une priorité générale ou pas.
Back door step.
On aurait pu parler d'ivresse dans cette émission avec vous, François Pépin, c'est dommage. En tout cas, l'ivresse, Jerry Lee Lewis et Eric Clapton en parleront mieux que nous. Trouble in Mind, comme on dit. C'est là-dessus que se termine cette émission. À votre compagnie, merci. François Pépin, vous enseignez la philosophie en classe terminale au lycée Jean-Baptiste C. Vos élèves ont bien de la chance. Vous êtes venu ici avec votre classe terminale, dont je salue la présence, et vos 19 élèves, donc, 19 de vos élèves qui sont venus donc assister à cette émission au studio 119 de la Maison de Radio France. Le sujet d'aujourd'hui, c'était « Doit-on toujours raison garder ?» Demain, suite de cette semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent au bac philo, je recevrai Marc-Henri Harfeux qui enseigne au lycée Édouard Herriot de Lyon et qui traitera le sujet suivant « Le temps est-il notre malheur ?» À la technique aujourd'hui, Jean-Louis Deloncle, à la réalisation Jean-Claude Loiseau, assistante Geneviève Méric, Adèle Vanrette, Laetitia Cordonnier et Tristan Grenacia. France Culture, il est 17h50 et tout de suite, Albert Jacquard.